Vous écoutez France Culture.
Culture Science. Aujourd'hui, Continent Science, Stéphane Deligeorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h sur France Culture, toujours en direct du studio numéro 2 cette fois. Nous avons déménagé, c'est la deuxième fois que je le dis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, cette question. Raisonner, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que le raisonnement? Et pour y répondre, avec nous, Olivier Houdet, psychologue, et qui a écrit un petit livre, petit, mais extrêmement dense, sur cette question absolument magnifique. Mais, pour respecter bien sûr nos traditions et nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui je retiens à nouveau l'abeille. L'abeille. On la connaissait ouvrière laborieuse, butineuse frénétique, pollinisatrice essentielle à la biodiversité. L'abeille se révélerait-elle également excellente physicienne? Depuis des siècles, les scientifiques se sont interrogés sur le rôle exact d'Apis mellifera dans la géométrie quasi parfaite des alvéoles dans lesquelles l'hyménoptère stocke miel et pollen ou pond ses œufs. Une équipe de scientifiques se sont penchés à nouveau sur l'énigme. Les petites cavités en cire, rappellent les chercheurs, sont d'abord circulaires, modelées par le corps de l'abeille avant de se transformer en hexagone arrondi au fur et à mesure de la construction du nid. Jusque-là, rien d'extraordinaire, le mécanisme à l'œuvre est connu depuis Aristote. Dans le cas des abeilles, les alvéoles s'agglomèrent comme le feraient des bulles de savon dans un bain, selon la forme optimale. On parle en mathématiques donc de formes optimales pour souder les cylindres entre eux et soi, donc l'hexagone. Le polygone qui, comparé au carré ou au triangle équilatéral, présente l'avantage d'avoir le plus petit périmètre pour paver une même surface. Apis mellifera parviendrait donc à construire ses alvéoles en consommant le moins d'efforts et le moins de matière première. Charles Darwin lui-même l'avait souligné, qui jugeait le nid d'abeille absolument parfait en économisant la main-d'œuvre et la cire. En revanche, plus étonnant est le rôle clé joué par les abeilles dans le processus de transformation qui, révèlent les chercheurs, repose sur l'écoulement de la cire chauffée à la jonction entre les différentes cavités. Les scientifiques ont montré que les hyménoptères, besognant sans relâche en rang serré à la construction des rangées d'alvéoles, produisent ainsi la chaleur qui permettra la fonte de la cire, phénomène qui survient à une température de 45 degrés. Celle-ci s'écoule alors comme un liquide élastique le long des points de jonction des cellules, selon encore une fois le mécanisme des bulles de savon, formant ainsi ces fameux hexagones. Il ressort donc de cette étude britannique que la géométrie parfaite des alvéoles tient plus à des lois physiques que du réel talent auquel les théories jusqu'ici, par le passé en tout cas, avaient prêté. On avait pensé que les abeilles avaient des aptitudes à calculer des angles et des longueurs mathématiques. Toutefois, l'insecte n'en demeure pas moins un formidable bâtisseur, capable par exemple d'utiliser sa tête comme un fil à plomb pour mesurer les verticales et s'assurer ainsi de la stabilité du nid. Citation, nous ne pouvons que nous émerveiller devant le rôle joué dans les abeilles, par les abeilles dans ce processus, lorsqu'elles chauffent, pétrissent et amincissent la cire exactement là où c'est nécessaire, reconnaissent les chercheurs. Et leurs découvertes pourraient trouver des applications dans le génie civil. Eh oui, des structures artificielles s'inspirant des alvéoles hexagonales des abeilles pourraient ainsi renforcer tout simplement la solidité d'édifices en construction. Bonjour Olivier Houdé.
Bonjour.
Bonjour, le psychologue qui va nous conduire à savoir ce que c'est que qu'est-ce à dire quand on raisonne, puisque le titre de votre livre dans la collection Que sais-je, édité au PUF, s'appelle tout simplement Le raisonnement. Alors il y a une première définition très très cursive qu'on pourrait dire, ben, savoir raisonner c'est au moins savoir réfléchir.
Oui, et c'est une propriété intéressante du cerveau qui fait qu'à un moment donné dans son développement, l'enfant et l'adolescent va considérer le réel comme un cas particulier du possible. Et finalement, c'est cela, raisonner.
Alors, pourquoi est-ce que vous mobilisez, je trouve que c'est d'ailleurs la formule est jolie, vous mobilisez Arthur Rimbaud.
Oui.
Vous allez mobiliser après, mais on va l'utiliser, Blaise Pascal, bien sûr. Mais Arthur Rimbaud, qui cherche du nouveau et qui arrive à l'inconnu.
Oui, Rimbaud dès la première page, d'abord parce que, que sais-je, sur le raisonnement est un sujet qui paraît plutôt sérieux, rébarbatif.
Oui.
Et je voulais montrer que d'emblée au lecteur qu'il y a un lien intime entre le raisonnement et la poésie, qui est en effet, par le cerveau, produire des hypothèses, envisager le réel autrement. Et c'est autant vrai pour la logique et les mathématiques que pour la création littéraire ou artistique en général.
Alors on va voir évidemment dans, au fil de vos explications, bien sûr, que le raisonnement, ça n'est pas évidemment toujours une sorte de conduite mentale bien construite où on arrive au vrai après de bonnes inférences bien construites selon, par exemple, la logique formelle du syllogisme classique.
Non, voilà, non. Comme l'aurait voulu Aristote.
Eh oui, comme l'aurait voulu Aristote. Non, on va voir que, allez, pour dire, on se trompe souvent, on se gourre, quoi. Souvent quand on raisonne, et on va en voir des formes. Cela dit, Olivier Houdé, dès l'abord, vous introduisez un auteur très important qui a eu une vogue extraordinaire. Bon, et qui, bien sûr, maintenant, vous le replacez dans le développement des sciences cognitives, hein, en particulier par l'inscription matérielle qu'il fait dans le cerveau, dans le développement, dans l'ontogénèse de l'individu. Des sciences cognitives, de la psychologie cognitive dont vous êtes un acteur, mais en tout cas, vous remobilisez cet auteur qui était connu. Allez, comment est-ce qu'on peut le définir pour sa théorie des stades de l'intelligence.
Alors, Jean Piaget, donc, sans doute le plus grand psychologue de l'enfant et du développement au XXe siècle, pour l'aspect, on va dire, raisonnement, comme Freud l'était pour l'affectif et l'émotion. Jean Piaget a d'abord eu cette idée de génie de considérer le développement de l'intelligence chez l'enfant comme une forme optimale d'adaptation biologique. Il n'avait pas à l'époque les technologies d'imagerie cérébrale que l'on a aujourd'hui pour réellement tester cette théorie. Il a donc étudié les comportements de l'enfant à travers ce qu'on appelle l'ontogenèse du bébé à l'âge adulte, caractérisé par quatre grands stades. Un premier stade chez le bébé qui serait uniquement sensoriel et moteur, qu'il appelle pour cette raison sensori-moteur, entre la naissance et 2 ans. Après, avec l'arrivée du langage, du dessin, du symbolisme, émerge une première forme de pensée entre 2 et 6, 7 ans, encore prélogique, très intuitive. Et Piaget considérait que l'enfant à cet âge, disons l'enfant d'école maternelle, avait un raisonnement prisonnier de ses intuitions visuelles et spatiales. Et à 6, 7 ans, l'âge de raison, cher au philosophe classique, Piaget a décrit l'émergence d'un stade plus logique, où l'enfant conçoit le nombre, l'inclusion des classes, mais une logique qui est encore très concrète, en rapport avec les objets concrets du monde réel que l'enfant peut manipuler ou maintenir pour un petit temps en mémoire. Et à l'adolescence, vers 11-12 ans, Piaget a décrit l'ultime stade, le quatrième, qui est le stade de la pensée formelle. Et c'est là qu'il disait, cette phrase que nous avons évoquée tout à l'heure, que le réel devient pour l'adolescent un cap particulier du possible. C'est le raisonnement hypothético-déductif, faire des hypothèses et en tirer des déductions. Donc finalement, Piaget avait une très bonne idée au départ, intelligence comme forme d'adaptation biologique, mais il a un peu enfermé cette superbe idée dans un modèle, sans doute, on le découvre aujourd'hui, trop linéaire et hiérarchique des stades du développement.
En tout cas, c'est une ontogénèse bien inscrite dans le biologique, vous venez de le dire à nouveau, Olivier Houdé, et qui, d'une certaine manière, conduit chacun des individus dans son développement à des passages obligés, en particulier, hein, qui est très très important, se dégager des manipulations. et obtenir à partir de l'abstraction, c'est-à-dire donc des activités symboliques mentales et qui permettent des jeux. Alors évidemment, ça a été un travail absolument considérable. J'ai en mémoire en particulier les tromperies pour voir justement comment, par exemple, en mettant la même quantité de perles, mais dans deux vases différents, est-ce que la même quantité a été conservée? Et là, la forme fait que selon le stade dans lequel on est, bien le bébé ou l'enfant se trompe.
Et Piaget a découvert ces intuitions perceptives. Ce que vous évoquez peut se faire avec des perles sur une table. On met par exemple 6 perles rapprochées à premier alignement et en dessous 6 perles que l'on écarte sous les yeux de l'enfant. Jusqu'à 6-7 ans, l'enfant va considérer qu'il y a plus de perles là où c'est plus long. Donc son raisonnement numérique, mathématique, est piégé par l'espace. Et Piaget a considéré que c'était ce fameux stade intuitif que j'évoquais qui existe avant 6-7 ans. Autre exemple, les liquides. Il mettait la même quantité de liquide dans un verre étroit ou un verre très large. Et évidemment, le niveau était plus bas dans un des deux cas. L'enfant considérait qu'il y avait plus de liquide là où haut. Ce qui est là aussi une erreur, on va dire, d'intuition physique qui, pour Piaget, se corrigeait et disparaissait définitivement dans le développement parce que pour lui, la direction était d'arriver à un cerveau qui ne serait que logique formelle et sans erreur.
Alors évidemment, et vous les signalez, parmi les premières critiques qui ont été faites à cette théorie, enfin, en tout cas au corps de doctrine de Piaget, il y a ceux qui lui ont dit qu'il n'avait pas fait ou il n'avait pas donné assez attention, en particulier à la dimension langagière de toutes ces opérations.
Oui, il y a cet aspect-là qui était la première critique, c'est-à-dire que souvent la difficulté pour l'enfant est dans la formulation de la question par le langage. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cette critique qui finalement était un peu superficielle. D'abord parce qu'on a découvert qu'il y avait des compétences cognitives avant 2 ans, c'est-à-dire avant même l'apparition du langage. Donc ce n'est pas la question du langage en tant que tel. Oui. La critique la plus forte sur Piaget, c'est que quel que soit l'âge, il y a des décalages cognitifs, des erreurs entre la logique et ce que l'enfant répond effectivement, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'il imaginait. Pour tout vous dire, et Piaget était très connu pour cela, à chaque fois que l'on trouvait, par exemple, une erreur plus tardive que ce que le stade piagétien aurait prédit, une erreur de logique chez l'enfant plus grand, chez l'adolescent, voire chez le jeune adulte, ou à l'inverse, des compétences très précoces chez le bébé, Piaget disait, pour que sa théorie continue de marcher sur le plan scientifique, il disait « le cerveau se développe de façon logique, mais il y a des décalages ». Il appelait cela, quand c'était dans le même stade, un décalage horizontal, et lorsqu'on lui montrait des décalages à travers les âges, hein, par exemple un adolescent qui fait une erreur qu'il ne devrait plus faire, il disait ce sont des décalages verticaux. Et ma critique aujourd'hui, et celle de beaucoup d'auteurs, a été de dire, mais alors la théorie a toujours raison, et pourquoi pas des décalages obliques? S'il y a des décalages dans tous les sens, où est la linéarité du développement logique? Et je pense que ce que l'on découvre aujourd'hui, et que le message que j'ai voulu passer dans ce que sais-je, c'est de dire que finalement, le décalage est plutôt la règle de fonctionnement du cerveau et non l'exception, comme le disait Piaget, par rapport à un modèle trop logique de l'ontogenèse qui, en effet, capitalisait Aristote, Descartes et le goût pour la logique et mathématique formelle qui caractérisait cette époque du XXe siècle.
Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie d'Olivier Houdet pour savoir exactement ce que raisonner veut dire. Et évidemment maintenant, on va peut-être se munir de petites boîtes, on va se construire une petite boîte à outils, en particulier parce qu'on va en avoir besoin très très rapidement. Évidemment, il y a tout d'abord le modèle standard, bien évidemment, qui remonte à Aristote et qui est l'inférence classique. On peut peut-être la définir et ensuite définir ce que c'est que l'induction, qui est tout à fait différente dans son principe.
Absolument. La grande loi classique historique universelle est la déduction, dont le syllogisme était l'exemple clé. Donc, pour dire simple, la déduction, c'est partir du général, d'une règle générale, pour en déduire, en inférer le cas particulier. L'induction, c'est le mécanisme.
On va le redire, tant pis, ça fait pont aux ânes, mais ça fait rien. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel.
Voilà. Hein, c'est donc les prémices, les deux premières phrases que vous avez évoquées, Stéphane, et la troisième, c'est la conclusion. Et il y a dans ce raisonnement une validité logique, une structure, un enchaînement discursif, c'est-à-dire l'enchaînement des mots du langage, qui fait que l'on peut déduire de façon certaine ce qu'on appelle la nécessité logique. À l'inverse, dans beaucoup de cas, notre cerveau fonctionne par induction, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore les règles générales, les structures abstraites, et il part de cas particuliers qu'il observe. Des cas singuliers, tout à fait. Des événements, des cas singuliers. Et à partir de cela, on va essayer d'en généraliser une règle plus globale. Et ça, c'est l'induction. Et ces deux mécanismes, donc, comprenez qu'ils sont symétriques, agissent tout le temps dans le cerveau. Oui. Le problème, c'est qu'ils n'agissent pas toujours correctement dans un sens ou dans un autre et qu'il y a donc des erreurs, des biais systématiques de raisonnement déductif et inductif.
Alors, deux petites précisions, là encore, concernant nos deux principes. Le premier, donc, la forme syllogistique, elle est tout à fait indépendante de la sémantique, c'est-à-dire que c'est la validité à partir d'étapes de vérité qu'on voit dans la logique formelle simple, le calcul des propositions simples, c'est que c'est évidemment détaché de toute sémantique. On regarde d'abord la validité, on verra sur des exemples où on est pris en défaut, comment la chose dysfonctionne quand on donne une sorte d'un seul coup de prééminence indue à la sémantique. Deuxième point aussi, c'est qu'à partir de l'induction, bien évidemment, l'induction la plus formalisée, ce sont les calculs des probabilités et évidemment donc la situation du calcul des cas probables à partir donc de cas uniques singuliers qu'on généralise et en particulier où on peut utiliser là les corbeaux pour savoir si parfois ils sont blancs pour savoir où parfois ils sont noirs. Passons. Alors à partir de là tout va se compliquer puisque il va y avoir on peut dire deux parmi les scientifiques qui vous ont le plus, disons, mobilisé dans ce que sais-je et qui vous ont peut-être aussi mobilisé dans vos recherches propres, les Léonet, il s'agit de Evans et il va s'agir de celui qui est, vous allez donner cette précision avec peut-être plus de détails, mais qui est donc le seul psychologue ayant eu le prix Nobel, mais d'économie. Il s'agit évidemment d'Edman.
Voilà, Daniel Kahneman.
Voilà, Kahneman, pardon.
Oui, les deux auraient pu l'avoir parce qu'ils ont fait des découvertes concurrentes. Donc Jonathan Evans, d'une part, et Daniel Kahneman, d'autre part, ont découvert, après Piaget, il faut situer leur découverte, entre, disons, les années 1980, époque où j'étais étudiant, donc j'étais plongé dans cela, il y avait une contradiction par rapport à Piaget, et aujourd'hui, 2014. Ils ont donc découvert ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, les biais cognitifs, les heuristiques, c'est-à-dire des façons qu'a notre cerveau de raisonner, de juger de façon très rapide, automatique, avec une stratégie qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et ces heuristiques, ces automatismes, sont les biais de raisonnement que l'on oppose aux algorithmes, c'est-à-dire l'inverse, qui serait la logique de Piaget ou d'Aristote, des stratégies plus lentes, réfléchies, analytiques, qui demandent au cerveau un effort cognitif plus grand, mais qui conduisent toujours, de façon certaine, au bon résultat. Et en quelque sorte, jusqu'à Evans et Kahneman, il y avait des manuels, des livres entiers d'algorithmes, de règles logiques, comment cela fonctionnait bien, le syllogisme que l'on a évoqué, on aurait aussi pu dire les règles conditionnelles de type si alors. Et ce qui n'existait pas, c'était, même si on avait jadis parlé de paralogisme ou d'erreur par rapport à la logique, mais ce qui n'existait pas, c'était un manuel ou des livres, une étude scientifique systématique des erreurs de raisonnement, c'est-à-dire de ces fameuses heuristiques. Et c'est ce qu'a fait Evans en définissant un biais de raisonnement comme une tendance systématique à raisonner de travers, à raisonner de façon décalée par rapport à la logique. Et Kahneman, j'irais mieux encore, à développer cette recherche en montrant qu'y compris pour l'économie, par exemple, les agents économiques qu'on a toujours considérés comme étant rationnels,
c'est ça, ne l'étaient
pas. Or, l'argent, l'économie, c'est normalement ce qui mobilise de la façon la plus sérieuse notre cerveau, y compris si l'on n'est pas scientifique. Et donc, Kahneman a montré de façon très fine, systématique, qu'il y avait tant pour l'induction que pour la déduction des écarts à la logique qui font que le plus souvent, notre cerveau est sur un mode heuristique, automatique, qu'il appelle et que je renomme dans le système 1,
oui.
par opposition au système 2, qui était la logique. Et toute la difficulté pour notre cerveau, c'est de gérer les deux qui entrent en quelque sorte en compétition dans notre tête, en compétition derrière le crâne. Il y a des réseaux de neurones qui correspondent soit au système heuristique automatique rapide de raisonnement, soit au système plus lent et logique, et ces réseaux différents ne s'accordent pas toujours. Et la grande difficulté pour l'adulte ou pour l'enfant, c'est de parvenir à accorder les deux.
Alors, est-ce que vous pouvez, Olivier Audet, donner un exemple de ces biais, en particulier dans ces... un biais d'appariement, est-ce qu'on peut le verbaliser, qui est, après on pourra avoir des biais différents, en particulier des biais statistiques, hein, mais est-ce qu'un biais d'appariement, ça peut se dire? Allez,
oui, je vais vous en donner
dites-le lentement. Allez.
Je vais d'abord redémarrer sur l'exemple que vous avez donné. Important de dire que finalement, la logique peut entrer en contradiction avec la sémantique. Qu'est-ce que c'est la sémantique? Ce sont nos connaissances générales sur le monde, nos croyances. Il y a cet exemple d'Ivans qui pose à des enfants, comme peut-être l'aurait fait Aristote, le syllogisme suivant. Petit A, les éléphants sont des mangeurs de foin. Mm-hmm. Petit B, les mangeurs de foin ne sont pas lourds. Mm-hmm. La question qu'on pose à l'enfant, petit C, est-ce que cela veut dire que les éléphants sont lourds? Tous les enfants, entre 6 et 11, 12 ans, dit d'enfants d'école primaire, répondent oui, les éléphants sont lourds. Or, on comprend bien que sémantiquement, ça marche. En effet, en général, on a construit cette connaissance bien cristallisée dans notre cerveau selon lesquelles les éléphants sont lourds. C'est la sémantique, notre représentation du monde. Mais logiquement, cette conclusion n'est pas du tout valide. Et Kahneman a trouvé un autre exemple chez les adultes concernant les roses.
Toutes les roses sont des fleurs. Voilà. Allez, c'est le début.
Toutes les roses sont des fleurs.
Allons-y.
Petit A,
oui.
Cher Stéphane Dely-Georges, toutes les roses sont des fleurs. Petit B, certaines fleurs fanent vite.
Oui.
Donc, petit C, certaines roses fanent vite.
Oui.
Et Kahneman posait cette question à ses étudiants du MIT, de Princeton, en disant, est-ce logique ou non?
Oui. Des têtes plus bien formées. Hein,
bien formées, en sciences de gestion, en statistique, en psychologie.
En calcul des probabilités, bien sûr.
Et en théorie des probabilités. Oui. Et plus de 90% des étudiants interrogés répondent que oui, cette conclusion est crédible au sens de la crédibilité sémantique, et pour eux, c'est synonyme de validité logique que certaines roses fanent vite. Or, cette conclusion ne tient pas si vous réanalysez le raisonnement, parce qu'il peut en effet exister des cas de figure de fleurs qui ne soient pas des roses et qui fanent vite. Donc, c'est comme l'exemple des éléphants lourds. C'est la connaissance générale, mais ici nous sommes chez les adultes universitaires.
Oui.
C'est une connaissance générale sur le monde, oui, les roses fanent vite, qui nous font court-circuiter ce système 2 de raisonnement logique. Et je crois que vous vouliez me faire dire l'exemple que vous avez aimé sur les carrés rouges et les cercles jaunes.
Allez.
Et qui est une règle cette fois conditionnelle.
Il faut la dire lentement parce qu'elle n'est pas facile, hein, mais allons-y.
Alors. Vous imaginez que vous voyez apparaître sur l'écran d'un ordinateur la règle suivante que je vais verbaliser. S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite.
Bien.
Pour cette règle simple, de type si alors, donc là on a un morceau de langage. Cette règle, c'est un morceau de langage. Le jeu d'esprit que je vous demande, ainsi qu'aux auditeurs, c'est de sélectionner deux formes géométriques parmi, vous imaginez, disposées sur la table ou sur
des
votre tablette.
Bleus, ainsi de suite.
Voilà, des carrés, des cercles, des losanges bleus, jaunes, rouges ou verts, ce qui fait 12 formes. Et rapidement, il faut sélectionner deux formes, en mettre une dans une case de gauche, l'autre dans la case de droite, de telle sorte que l'on rende la règle fausse, ce qui s'appelle une tâche de falsification de règles conditionnelles. Là aussi, plus de 90%, parfois tous les échantillons, des adultes interrogés, y compris des polytechniciens sur lesquels nous avons refait ces expériences en France,
se
répondent carré rouge, cercle jaune.
Oui.
C'est ce qu'on appelle une heuristique, ce système 1 rapide d'appariement perceptif. Comment raisonnent-ils? Ils se disent, bon, il nous a dit s'il n'y a pas de carré rouge à gauche. Il y a une négation au début. Il faut rendre fausse la règle, ou en tout cas créer un cas de figure qui va contre la règle. On se dit, je vais donc mettre un carré rouge, oui. puisqu'il n'y en a pas. Et après, on dit, et je vais donc mettre un cercle jaune. Donc on apparaît avec les éléments cités dans la règle, alors que, depuis la table de vérité que vous évoquiez tout à l'heure, oui. la plus simple, la plus logique d'Aristote, une règle conditionnelle a un antécédent et un conséquent. Il y a deux valeurs, vrai ou faux, et tout le monde sait, quelque part dans son cerveau, que pour transgresser une règle, c'est vrai en psycho, c'est vrai en logique, c'est vrai dans le monde, dans la justice, il faut un antécédent vrai et un conséquent faux. Dans ce cas-ci, et je conclue sur cet exemple, l'antécédent c'est, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, pour être dans les conditions d'application de la règle, il faut donc ne pas mettre de carré rouge à gauche. Il faut inhiber, en quelque sorte, grâce à notre cortex préfrontal, il faut inhiber le carré rouge. On est donc dans ce cas-là dans les conditions d'application de la règle. Et comme il fallait la rendre fausse et qu'elle dit qu'il n'y a pas de cercle jaune à droite, il ne faut pas mettre de cercle jaune à droite. Donc c'est une petite règle très simple où, pour être logique, il faut inhiber les deux éléments perceptivement vus ou entendus dans la règle, carré rouge, cercle jaune. Et sur cet exemple très simple, on voit que des cerveaux adultes, y compris très logiques et mathématiciens, n'y parviennent pas et se laissent piégé comme un enfant en appariant les éléments de leur réponse avec les éléments cités dans la règle. Donc cet exemple est l'automatisme d'appariement perceptif qui est exactement l'opposé d'une réponse logique qui aurait été, par exemple, losange bleu, cercle vert.
Oui. Et vous rappelez ce propos de Kahneman qui dit que donc, ce système 1, rapide, qui est évidemment pas soumis aux règles lentes, laborieuses, parfois fatigantes, parfois désagréables, du système 2, qui lui est celui de la bonne inférence, eh bien, ce système 1, là, bondit tout de suite, il est extraordinairement spontané, il va très vite. Et une des conséquences, bien évidemment, c'est que même dans une concentration d'experts, on va leur soumettre des questions et ils vont se tromper gravement parce qu'ils vont être soumis justement à la spontanéité, encore une fois, de ce qui s'appelle le système 1. Petit exemple d'ailleurs sur la statistique de cette fameuse étudiante des années 70 qui est là,
Linda,
là encore, oui, elle s'appelle Linda dans cette affaire, et donc dans les années 70, elle est très très anti-Vietnam, marquée à gauche, ainsi de suite. Si on l'apprend 30 ans plus tard, quelle est la probabilité la plus forte de son destin social possible? Est-elle une simple employée dans une banque, plus féministe convaincue et féroce,
ou simplement employé dans une banque?
Oui. Alors,
deux options, et vous retrouvez le systématisme des erreurs précédentes. 80 voire 90% des jeunes adultes interrogés répondent, en termes de probabilité, qu'elle a plus de chances d'être employée dans une banque et militant dans un mouvement féministe. Or, chacun d'entre nous sait par ailleurs que la co-occurrence de deux événements en probabilité est plus rare que l'occurrence d'un seul. Si l'on cherche sur un site de rencontre à la fois une personne belle, intelligente et riche, chacun sait que nous avons moins de chances de la trouver qu'une personne simplement belle, intelligente ou riche. Et sur cet exemple, vous voyez que la probabilité par rapport à l'occurrence de deux événements est la même, mais cette règle logique, notre cerveau ne l'applique pas spontanément dès l'instant où des stéréotypes, par exemple, et dans ce cas c'était le stéréotype de l'étudiante de gauche engagée qui deviendrait féministe, les stéréotypes ou les émotions qui sont une fois de plus dans ce cas des automatismes, un stéréotype social qui est un automatisme, court-circuitent en effet de façon très rapide le raisonnement logique qui dans ce cas-là était une induction. On a là un exemple d'induction à partir d'un cas particulier, celui de Linda, quelle serait la règle générale. Or, la règle générale était ici la simple inclusion des classes. Il y aura toujours plus de banquières que de banquières qui soient féministes.
Féministes
donc,
acharnées,
en termes de proba, il fallait répondre directement. De toute façon, quel que soit son cas personnel, elle a plus de chances d'être banquière. Et vous avez raison sur un point, c'est que l'essentiel, c'est la vitesse. La vitesse du raisonnement. Et quand on s'intéresse à la psychologie, c'est-à-dire au fonctionnement du cerveau, cette question de vitesse du raisonnement devient plus importante que les stratégies de raisonnement elles-mêmes. Et en effet, vous avez toujours un système de raisonnement, pourquoi on l'appelle le système 1, qui correspond aux automatismes qui passent en premier. Et on a beau être très logique, très formel par ailleurs, s'il passe en premier, c'est lui qui guide nos jugements, nos comportements, nos inférences. Et là, il y a un vrai problème, on va dire, de cognitif général, au-delà de la psychologie, pour notre raisonnement dans la société.
Ça a eu beaucoup d'importance. Donc là, c'est constaté simplement que ce héros, ainsi que le désigne Kahneman, ce héros-là, a montré qu'on était des machines à se tromper, quoi, d'une certaine manière, hein, en tout cas dans beaucoup de cas. Et que voilà, l'agent rationnel strict, prenant la bonne décision en conformité à ses intérêts, voilà, c'était un doux fantasme. Ouais. Hein, et donc, en fait, l'homme est une machine spontanément à se tromper, d'une certaine manière.
Voilà, à se tromper, à fonctionner au plus rapide. Alors, il faut savoir que quelque part, il a raison de se tromper quelquefois. Pour la raison, l'explication suivante, c'est que les heuristiques et les automatismes nous permettent d'être adaptés tout le temps, au quotidien. Je vous donnais tout à l'heure comme définition le fait que ces stratégies marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Donc, le très souvent, c'est le côté adaptatif. Mais quelquefois, ça nous induit en erreur. Et les psychologues de ma génération, les scientifiques, se sont trouvés confrontés à cette contradiction entre un Piaget qui nous décrivait un jeune ado et adulte logique et rationnel, système 2, et un Kahneman ou un Evans qui nous décrivait exactement l'inverse, un ado ou un adulte irrationnel, intuitif, système 1. Dès lors, il fallait essayer de comprendre dans les lois de fonctionnement du cerveau comment cette contradiction pouvait s'expliquer, ce qui a nécessité l'invention, je dirais, d'une théorie nouvelle du raisonnement, où les émotions jouent aussi un rôle très fort, comme l'a montré Damasio, en indiquant qu'il peut y avoir un guidage émotionnel du raisonnement logique. Et ce guidage émotionnel est l'une des clés, un ouvre-boîte, en fait, pour choisir le bon système de raisonnement au bon moment.
Et voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie d'Olivier Houdet, à essayer de comprendre, à essayer de réfléchir, de savoir ce que ça veut dire que mener un raisonnement, et de bien raisonner, ou de raisonner de façon, parfois, à la limite de l'indu, avec ce système 1, fougueux et trompeur, et ce système 2, lui, laborieux et
paresseux.
Et paresseux, voilà. Alors, va rentrer un nouveau personnage qui s'appelle Damasio.
Oui.
Et qui va tout compliquer d'une certaine manière. Et peut-être, on peut le dire au préalable, et vous allez peut-être commenter ce premier point, Olivier Houdet, inscrire de façon qu'on sait très très bien qu'en sciences cognitives, en psychologie cognitive, il y a universellement un grand programme qui est de naturalisation de la pensée en particulier. Bref, on essaie de comprendre les ancrages neurobiologiques, bien évidemment, de ces processus. On ne peut pas penser sans cerveau, bien évidemment. Sauf que, évidemment aussi, le cerveau ne sécrète pas la pensée comme la bile. Bon, c'est quand même un poil plus compliqué. Alors, Olivier Houdet, Est-ce qu'on peut dire que dans cette voie-là, d'une certaine manière, Damasio vint encore plus inscrire dans la corporéité, si je puis dire, neurobiologique, la question justement du raisonnement?
Le concept clé, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que Damasio a eu cette idée géniale d'indiquer que la prise de décision, le raisonnement, finalement, implique tout le corps au sens de son adaptation essentielle. Et il dit même que les émotions qui nous permettent de bien raisonner, c'est le sens de l'essentiel. C'est-à-dire cette capacité que doit avoir notre cerveau grâce à des marqueurs somatiques, c'est-à-dire des souvenirs émotionnels gravés dans le corps, mais qui sont en quelque sorte représentés au niveau de zones de convergence dans le cerveau, comme le cortex préfrontal. Grâce à ce système, on va à tout moment déclencher des systèmes d'arrêt ou de marche.
Oui. Qui... Danger, ça peut être fuite.
Voilà, le danger. Donc on voit le côté très biologique, évolutionniste de ce qu'a pu représenter les conduites de détour, éviter le danger. Et finalement, Damasio a eu la force de dire que tous ces mécanismes élémentaires de l'adaptation biologique, donc du corps dans l'espace, valent aussi pour le raisonnement et la prise de décision. Et donc, moi, il m'est apparu que ça pouvait être une théorie qui pouvait nous permettre de commencer à réfléchir sur la façon dont les émotions seraient le trait d'union entre le système 1 et le système 2, mais un trait d'union qui va permettre l'inhibition de l'un pour l'activation de l'autre. Il faut bien comprendre que pour cela, il faut un guidage émotionnel. Mais comme Théodule Ribaud, grand psychologue français de la fin du XXe, avait décrit cela, il avait écrit un très beau livre sur les sentiments, en disant que dans tous les sentiments, il y a aussi des sentiments intellectuels, c'est-à-dire ceux qui nous guident sur le bon chemin et mettre notre cerveau au bon endroit, au bon moment, dans le paysage qu'on appellerait aujourd'hui cognitif.
Alors pour résumer au point où nous en sommes arrivés, pour vous suivre précisément, Olivier Audet, donc on voit bien que conflit puissant entre système 1 et système 2, on vient de le voir, on l'a suffisamment explicité, et voilà que va apparaître un système 3, on va le désigner ainsi par cette numérotation, et à suivre Damasio, c'est une sorte de système d'arbitrage, appuyé sur ses émotions, ce que ça a laissé en trace mémorisée, et donc on peut introduire à partir de là quelque chose qui va être important, qui est désigné par Damasio, je pense, comme le contrôle inhibiteur.
Oui. Hein ?
C'est-à-dire que là, il va y avoir arrive l'arbitre d'une certaine manière, non ?
Alors, entre le 1 et le 2. Damasio n'a pas explicitement parlé du contrôle inhibiteur, mais d'autres recherches en parallèle découvraient ce rôle de...
Vous en particulier, vous en avez parlé, hein, bien évidemment.
Je n'osais pas le dire. Nous sommes très amis scientifiques avec Damasio, donc ça relève aussi de débats, d'échanges. Et donc, en effet, les psychologues de l'enfant qui constataient ces écarts à la logique ont commencé dans les années 90-2000 à considérer que finalement, le mécanisme sans doute essentiel de l'ontogenèse du cerveau, c'est pas tant la logique, comme le disait Piaget, puisqu'on voit bien qu'elle ne fonctionne pas à tous les coups, c'est cette capacité d'inhibition, au sens du contrôle cognitif, sous-tendu par la maturation assez lente du cortex préfrontal au cours de l'enfance, qui va nous permettre d'arbitrer, là on retrouve le cadrage d'arbitrage émotionnel de Damasio, d'arbitrer au cas par cas s'il faut inhiber ou activer le système 1 ou le système 2. Et avec un début de théorie comme cela que l'on a opérationnalisé en expérience scientifique, notamment en imagerie cérébrale depuis 10 ans, c'est avec cette idée-là que l'on a commencé à construire une nouvelle théorie qui, pour le résumer, impliquerait 3 systèmes. Le 1 que l'on a évoqué, intuitif, forme de raisonnement quotidien, sans chercher à se conformer à la logique. Le 2, système logique, compétence déductive ou inductive. Et le 3, un système exécutif de contrôle qui permet le passage d'un mode de raisonnement à l'autre. Et l'important, c'est que ça vaut non seulement pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte, cultivé, très rationnel.
Alors évidemment, vous avez signalé tout à l'heure que ça se passe là encore pour bien l'inscrire dans le néocortex, qui est un centre très très important, puisqu'il concentre aussi les émotions, il concentre...
C'est une zone de convergence.
Voilà, c'est une zone de convergence neuro-cérébrale. Donc c'est comme ça qu'il faut bien l'entendre. Alors, prenons l'exemple de ceux qui ont des lésions. Vous l'utilisez, est-ce qu'on peut là, en mobilisant cet exemple, jouer du contraste?
Oui.
Il y a des gens qui raisonnent, qui ont perdu tout sens d'émotion. Hein, après une lésion cérébrale, ils sont, on peut dire, d'une certaine manière émotionnellement atones. Voilà, et donc, ils résonnent de sang-froid, vous dites.
Voilà, hein. Ils sont froids. Et alors, c'est là la découverte de Damasio, ce qu'on appelle des patients, entre guillemets, ventromédian droit, c'est-à-dire qui, à l'issue d'une lésion, d'un accident, ont cette partie droite du cortex préfrontal, qui est vraiment, on le dit ventromédian parce que c'est au cœur du sang, dans l'intimité du cerveau droit. Mmh. Et c'est sans doute là ce siège du guidage émotionnel qui, sous forme après plus logique, sera prise en charge par d'autres parties du cerveau, comme le cortex préfrontal gauche, avec des aspects plus langagiers, analytiques. Et les patients qui ont une lésion de cette région, finalement, n'ont plus ce guidage émotionnel qui leur permettrait de choisir au cas par cas le bon raisonnement. Il y a aussi d'autres types de patients, c'était découvert plus récemment, qui perdent le sentiment de regret. Parce que pour ne pas faire une erreur de raisonnement, il faut en quelque sorte anticiper le regret, se dire « je vais essayer de ne pas me tromper » ou « ne pas répéter une erreur de raisonnement ». Et là aussi, vous avez un exemple d'émotion qu'on appelle contrefactuelle, qui va contre le fait, contre l'erreur, qui est aujourd'hui très finement localisée dans le cerveau. Il n'y a donc pas d'opposition entre émotion, intelligence et raisonnement. Au contraire, il faut comprendre comment, de façon sans doute subtiles, fines, les unes influencent les autres. Certaines émotions vont conduire aux automatismes, aux erreurs du système 1, mais d'autres émotions plus fines, comme l'anticipation du regret, c'est-à-dire regretter l'automatisme qu'on n'a pas encore fait mais que l'on pourrait faire, relèvent de ce guidage émotionnel. Et ça, on peut aussi en faire une pédagogie, c'est-à-dire une pédagogie du regret pour bien raisonner. C'est sans doute sur ce point qu'il faut aussi centrer le travail à l'école et pas seulement sur la répétition des règles logiques qui n'entraînerait que les algorithmes du système 2.
Vous avez parlé vite, Olivier Audet, vous avez dit un moment contrefactuel, donc c'est imaginer que James Dean aurait pris le train au lieu de conduire sa Porsche pour se faire tuer. Donc c'est imaginer
que les éléphants ne sont pas lourds dans certains cas ou peuvent ne pas l'être. Oui. C'est imaginer que les roses ne fanent pas nécessairement vite. Oui. Et donc ce contrefactuel est au cœur, finalement, de l'inhibition dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il faut être capable aussi, quelquefois, d'inhiber contre les faits ou contre ce que l'on pourrait faire. On évoquait au début que le cerveau a cette propriété fondamentale d'imaginer le réel comme un cas particulier du possible. Eh bien, le contrefactuel est là. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer les choses autrement qu'elles ne le sont oui, uniquement déterminées par nos automatismes. Et là, on entre dans la logique et dans la créativité.
Alors, il a une autre qualité aussi qui est soulignée par Damasio, qui est très très importante, bien évidemment, et qui pourrait être d'ailleurs aussi un sentiment mental qui procure du plaisir, c'est la réflexivité. C'est-à-dire qu'à un moment, avec un raisonnement bien mené, où on est en train d'observer ce que l'on peut prendre, par exemple, dans sa croyance, on pourra peut-être développer ce point-là précis un peu plus loin, mais en tout cas, dans la réflexivité, on voit que c'est un retour sur soi-même, dans l'observation intime de ces opérations mentales, pour savoir si elles sont en particulier bien menées. Est-ce que ça, c'est un point, là encore, important dans le développement, cette fois, de la bonne compréhension du raisonnement, et donc avec cette attitude de réflexivité?
Oui, cette émotion donc, qui permet de choisir un système par rapport à l'autre, quand elle devient cognitive, comme on l'évoquait, crée de la conscience réflexive. Oui. Et c'est cela qu'il faut entraîner, cette conscience réflexive, finalement, et chacun le ressentira intuitivement, que l'on a trois systèmes, un système automatique, un système logique, et quand même en nous, cette potentialité d'arbitrer, qui n'est pas évidente mais qui peut s'exercer, est un exercice de conscience réflexive. Et ce que l'on appelle aujourd'hui aussi, dans des programmes très scientifiques, la métacognition, c'est-à-dire c'est pas seulement nos automatismes cognitifs, ce ne sont pas seulement nos automatismes cognitifs, ce ne sont pas seulement nos règles logiques, c'est aussi une forme de cognition où l'on réfléchit à la façon dont on raisonne. Et donc cette réflexion sur le raisonnement est habitée, déclenchée par les émotions dont on parlait, par cette inhibition au sens cognitif et positif du terme, être capable, mais très rapidement, parce que comme c'est une question de vitesse tout cela, il faut que cette inhibition, cette conscience réflexive fonctionne vite, sinon l'automatisme du système 1 passera toujours devant. Et c'est là où il y a des choses nouvelles à découvrir en science, c'est pas seulement reparler de la conscience, c'est de se dire, il faut exercer par l'éducation, par la pédagogie, cette conscience réflexive très rapide, au point qu'elle puisse devenir plus rapide que nos automatismes dans bon nombre de cas. Et là, on a un champ tout à fait nouveau qui porte vraiment sur la vitesse de raisonnement du cerveau qui en a la potentialité, mais qui doit y être exercée. Et on est au cœur du neuroculturel, parce que finalement, nos stratégies neuroculturelles peuvent être soit rapides, soit plus analytiques. Et le cortex préfrontal a cette vocation, en quelque sorte, à condition de bien l'entraîner, de gérer cette contradiction.
Alors Olivier Audier, vous avez mis ça en acte, vous avez même fait des expériences, en particulier dans l'année 2000, vous avez fait la première démonstration expérimentale donc de ce découplage entre S1 et S2, et en particulier donc pour, je vais donner le titre de l'article d'ailleurs parce qu'il est assez significatif, je vais dire doucement, flexibilité du cerveau perceptif au cerveau logique, l'impact neuronal d'un entraînement à l'inhibition cognitive. Alors donc, il faut d'un seul coup arrêter, il faut casser la spontanéité, c'est grosso modo ce que ça veut dire. D'où l'importance d'ailleurs que ça peut avoir dans l'éducation, en particulier dans les bons programmes didactiques. Hein. Donc, qu'est-ce que vous vouliez montrer à partir de cette expérience-là ?
Comme on l'a résumé, au début des années 2000, on se trouvait en présence de deux grandes théories, celle de Piaget, celle de Kahneman, contradictoires. Or, tout se passe dans le même cerveau. Donc, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale qui émergeaient en science à la fin du XXe siècle, la première question qu'on s'est posée avec mon laboratoire, c'est de se dire, mais essayons d'observer dans le cerveau comment ces deux systèmes fonctionnent avec des réseaux neuronaux différents et entre en compétition. Et donc, on a observé que lorsque les individus qui avaient à résoudre la tâche des formes géométriques colorées que j'évoquais tout à l'heure, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite, rendre faux, faisaient cela dans la caméra d'IRM, à travers un système visuel qui reflétait l'écran d'ordinateur, et se trompaient, on observait, et on a observé dans l'article que vous avez la gentillesse de citer, on observait le réseau cérébral de l'erreur, le réseau cérébral du système 1, qui est en fait très postérieur à l'arrière de notre cerveau, qui fonctionne sur les automatismes visuels ou perceptifs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et ce qui traduit très concrètement par une réponse carré rouge, cercle jaune, qui est une erreur de logique et qui correspond à un réseau que l'on observe dans le cerveau.
C'est-à-dire qu'il correspond à un réseau et en particulier aussi avec des marqueurs qui montrent l'hémodynamique et sa concentration, ses variations.
Là, on est vraiment au cœur d'une science dure et d'une psychologie dure. Le signal est hémodynamique. Donc c'est vraiment. Et là, on retrouve Damasio finalement. C'était guidé par cela. C'est comment dans le corps, dans nos neurones, ces questions qui peuvent paraître très générales et abstraites de raisonnement sont vraiment au cœur de la mobilisation et du fonctionnement de nos neurones. Et ce qui nous a intéressé dans cette expérience, c'est de sortir les individus de la caméra d'imagerie cérébrale et de leur faire différents apprentissages. Un apprentissage soit la logique. Si en effet, on suit le modèle de Piaget, s'ils se trompent dans une tâche comme celle-là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la règle logique. Soit un apprentissage qu'on a formaté de façon plus émotionnelle d'inhibition du système 1, l'appariement perceptif, pour activer la règle logique. Mais on n'apprenait pas la logique dans cet apprentissage-là. On exerçait la conscience réflexive que l'on vient d'évoquer. Mmh. On exerçait ce sentiment cognitif ou intellectuel d'inhiber un système pour activer l'autre. On a constaté que seul l'apprentissage à l'inhibition permettait aux individus de corriger leur erreur.
Donc ça marche alors?
Ça marche au niveau comportemental. Oui. En quelque sorte, pourquoi la logique ne marche pas? On pourrait dire, mais comment se fait-il que quand on leur explique la règle logique, ça ne marche pas? Parce qu'en quelque sorte, si vous me permettez cette métaphore, leur cerveau est déjà plein de logique. Et sur ce point, Piaget avait raison. Si vous versez de la logique, ça déborde. Ce n'est pas ce qui leur manquait. Il leur manquait un mécanisme plus subtil d'arbitrage, d'inhibition, donc ce fameux système 3, entre les automatismes et la logique. Et donc, pour prouver cela, on a remis les individus qui avaient corrigé leur erreur et ceux qui ne l'avaient pas corrigé une deuxième fois dans la caméra d'imagerie cérébrale. C'est donc la reconfiguration des réseaux neuronaux que l'on observe à travers l'apprentissage, avant et après, pré-test et post-test. Et à la deuxième fois, les traces de la correction d'erreur se sont manifestées de façon spectaculaire pour nous. C'était une vraie découverte scientifique. C'est-à-dire qu'on observe une bascule cérébrale de l'arrière du cerveau vers l'avant. Et lorsque cette inhibition, ce système 3 se met en marche, c'est le cortex préfrontal qui prend en charge la résolution de la tâche. Et donc, cela montre que les mêmes individus peuvent utiliser deux parties complètement différentes de leur cerveau selon la stratégie psychologique de raisonnement qu'ils appliquent. Et là, vous avez vraiment un lien essentiel entre raisonnement, système de raisonnement, cerveau et corps. Et là, le dualisme, disons, cartésien, n'existe plus dans ces recherches. Et c'est la façon qu'on a aujourd'hui de tester, on pourrait dire, une neuropédagogie cognitive, c'est-à-dire comment le cerveau des élèves peut mobiliser des régions complètement différentes pour résoudre une même tâche de raisonnement. Mais c'est la plasticité, la vicariance. Oui. Et si vous voulez, c'est aussi l'abstraction, parce que passer de l'arrière à l'avant de son cerveau, c'est-à-dire des régions, on va dire, plus perceptives, visuelles et spatiales, au cortex préfrontal qui fait l'arbitrage entre la logique et les automatismes, c'est une trace, on va dire, inédite dans le cerveau humain, de cette capacité d'abstraction qui se traduit par une bascule cérébrale de l'avant vers l'arrière du cerveau.
Alors, est-ce que c'est pour ça que ça a bien marché avec Pierre Lénin, pour introduire en particulier dans les programmes de la main à la patte, ce qu'on peut appeler un apprentissage, on va dire, logicien, ou en tout cas un apprentissage des compréhensions, des erreurs, de raisonnement, qu'on peut mettre à côté de l'apprentissage d'un meilleur calcul, ainsi de suite. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, c'est une voie singulière, nouvelle, appuyée sur tout ce que vous venez d'expliquer, Olivier Houdet, et qui peut trouver donc un champ didactique, là, cette fois,
oui,
nouveau.
Et là, pour bien le comprendre, c'est l'analogie que l'on peut faire entre les enfants et les savants. L'un comme l'autre doivent inhiber leurs automatismes de pensée, les apparences perceptives, l'idée que, pour reprendre l'exemple le plus célèbre de l'histoire des sciences, que le soleil tourne autour de la Terre est un automatisme que par jour de beau temps, comme aujourd'hui, l'on peut concevoir, mais qu'il faut inhiber en permanence par la mesure, par le raisonnement, pour considérer que si on a un algorithme...
Encore un effort pour devenir galiléen et pas rester dans...
Et donc c'est vrai à peu près pour tous les domaines scientifiques. Et oui, l'apprentissage que fait l'Académie des sciences par la Fondation La Main à la Pâte, oui, des sciences à l'école, remet au cœur de l'école le raisonnement. On a depuis l'école de Jules Ferry lire, écrire, compter comme grand domaine. L'idée ici est d'y ajouter raisonner, qui est capital dès l'instant où l'on conçoit que le raisonnement logique n'est pas évident pour l'enfant et qu'à tout moment, ces automatismes de pensée, système 1, système 2, système 3 pour l'inhibition de ces mêmes automatismes, doit être l'objet d'un effort éducatif. C'est un vrai défi d'exercer cette forme de conscience réflexive.
Olivier Houdet, pour finir, juste, et parce que c'était très très singulier, vous montrez aussi que, évidemment, alors je vais le dire en termes, comme ça, ça sera pratiquement comme une expression de cuistrerie scientifique, hein, mais je veux dire, vous expliquez que les petits bébés sont des inféreurs bayésiens. Oh là là! Ils sont très savants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des... Parce que l'inférence bayésienne, c'est quand même subtil. C'est prendre des conséquences,
oui,
les réinjecter dans l'antécédent pour voir à nouveau ce qui va sortir de la moulinette algorithmique. Les bébés sont bayésiens et ceci, dans le plus jeune âge, ils sont statisticiens, ces bébés.
Ça, c'était la preuve ultime qui vient d'arriver.
Oui.
C'est-à-dire que le fameux système 2, c'est une théorie vraiment statistique de probabilité, on en trouve déjà des traces avant l'âge d'un an chez le bébé. On le fait raisonner par rapport à des motifs visuels de tirage, de balles de ping-pong, rouge ou blanche, dans des boîtes où la probabilité est transgressée ou pas. Très tôt, la surprise visuelle des bébés nous permet d'identifier qu'ils font des inférences de type bayésienne, en effet, c'est-à-dire imaginer les structures abstraites à partir des effets observés, en l'occurrence ce que le bébé voit. Donc les bébés sont beaucoup plus lucides, pas seulement, comme on le disait au début de notre entretien, sensorimoteurs, comme le disait Piaget, mais ont déjà cette lucidité presque logique et mathématique qui peut ensuite ne pas apparaître plus tard parce que des automatismes se sont construits, l'empêchent de s'exprimer. Et cela nous amène à finalement redéfinir le progrès cognitif comme étant non linéaire. On a déjà des traces du système 2, très logique, très tôt chez le bébé, qui disparaît ensuite sous l'influence des automatismes de pensée, des automatismes culturels qui créent les erreurs, les biais qu'a observé, y compris Kahneman, jusqu'à l'âge adulte. Et donc le progrès cognitif est sans doute dynamique et non linéaire, et les bébés bayésiens, en effet, en sont l'une des traces très précoces que la logique ne doit pas attendre si longtemps que cela pour apparaître, mais ce n'est pas pour autant qu'elle habitera tous les jugements jusqu'à l'âge adulte, où les adultes se trompent à la limite plus que les bébés dans des problèmes où leurs croyances sur les roses qui fanent vite, sur le poids des éléphants, vont les empêcher d'être logique.
Oui, d'ailleurs, il y a même des polytechniciens, dans un des exemples, qui se trompent allègrement à certaines questions posées et qui font en particulier de grosses bêtises avec les inférences statistiques.
Ce qui les différencie, c'est comment ils acceptent l'erreur et donc finalement cette émotion de l'arbitrage. Et là, on peut vraiment voir cet aspect de l'intelligence qui est plus essentiel que la seule logique.
Bien. Ben, je vous remercie en tout cas, Olivier Audet, pour votre visite, vos explications concernant ce raisonnement. Le titre du livre, il est tout simple, ça s'appelle Le raisonnement. Il est dans cette petite collection dense, pour certains de ces ouvrages qui s'appellent donc Les Que sais-je, c'est aux éditions des PUF. Et nous voilà lentement arrivant au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Bien sûr, merci de votre attention et de votre fidélité dans votre écoute de Continent Science tous les lundis. Aujourd'hui, aux manettes, à la console technique, Alex Dang, Daphné Abgral, Danny Journeau, Stéphane Delis-Georges. Comme vous le savez, Continent Science, c'est aussi, lui, balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, à l'émission Continent Science, et là. Vous avez la possibilité de télécharger cette émission le temps d'une grande année.